Le service de l'information de CJSO 101.7 présente La Tribune avec Sylvain Rochon.
Oui, on revient à la tribune en direct du restaurant de la Beau-Petit-Faille. On parle de ces bris de service en pédiatrie. Monsieur Péloquin a même suggéré que le CLSC le faisait, pour ainsi dire, exprès, en décourageant la pratique de la pédiatrie à Sorel-Tracy. Est-ce que vous croyez à cette conspiration contre le territoire? Est-ce qu'on veut notre peau? Je pose la question, puis je me demande s'il y a un dermatologiste ici à Sorel-Tracy, d'ailleurs. Tiens, je pense, je suis pas sûr. Est-ce que Mme Potvin se lève le matin en se demandant comment nous achever? Parce que c'est pas loin de la réputation que lui donnent ses détracteurs. Honnêtement, c'est pas loin de ça. Est-ce que c'est exact, Hélène? Qu'en pensez-vous?
Je ne crois pas que Mme Potvin se réveille en pensant comment faire ce que vous dites.
Non, mais M. Péloquin, je ne sais pas si c'est lui ou c'est le Dr Godin. Quelqu'un a dit on veut faire de notre hôpital un gros CLSC. Louise Beauchesne n'a pas aimé ça parce qu'elle n'aille pas ça, les gros CLSC. Mais est-ce qu'il y a de ça? Est-ce que ça fait partie du plan du CIS de la Montérégie-Est?
Bien, moi, je pense que c'est parti de peut-être d'un sentiment d'insécurité qui date de nombreuses années parce qu'il y a eu beaucoup de pertes à Sorel-Tracy, pas seulement en santé. Par exemple, il y a des ministères, je pense le service des communications, le ministère des communications à l'époque, qui a quitté, il est parti à Saint-Hyacinthe, le ministère des Transports. Alors, les gens ont cette impression-là qu'on veut se faire déposséder des services qu'on a. Et avec une population vieillissante, c'est encore plus insécurisant, cette perte. Est-ce qu'elle est vraie ou fausse? Mais il y a une perte probablement de services. J'aurais peut-être mon anecdote personnelle. Ma sœur a dû aller faire de la physiothérapie spécialisée à Saint-Hyacinthe à raison de 2 à 3 fois par semaine. Quand on a de la difficulté à marcher, c'était épouvantable. Il n'y a pas de transport. Tu sais, alors, c'est insécurisant tout le temps comme ça. Et moi, je pense que ça part de plus loin. Et le débat qui se passe à l'heure actuelle joue un peu là-dessus.
Bon, Jacqueline Cournoyer n'a pas parlé encore et je veux lui permettre de s'exprimer sur la question de où s'arrête la dispensation de services de proximité? Où s'arrête le panier de ces services? C'est pas illimité. Je donne un exemple, et ça va vous parler, Jacqueline Cournoyer. On recourt beaucoup pour le cancer à la radiothérapie. On ne dispense pas ici de radiothérapie. Est-ce qu'on devrait? Jacqueline, il y a chaque semaine des Sorellois qui s'exilent pour le traitement, pour leur traitement de radiothérapie.
Oui, à chaque semaine.
Vous l'avez vécu vous-même?
Je l'ai vécu, moi. Ici, la chimiothérapie, c'est fantastique. Bon service, mais après ça, tu t'en vas à l'extérieur et c'est tout dépendamment de la gravité du cancer, tout dépendamment. Après le résultat de la chimio, qu'est-ce qu'on a à suivre au niveau de la radiothérapie? Alors, à ce moment-là, on se cherche un hôpital Montréal, Trois-Rivières, Charlemagne, pour aller faire notre traitement de radiothérapie qui est consécutif pendant 24, 32, 40, et peu importe. Et c'est à 5 jours/semaine et le traitement dure 1 minute et demie. Alors, il faut prendre la route à tous les matins et se déplacer. Mais heureusement, dans les endroits où on offre la radiothérapie, il y a quand même un service d'hôtellerie qui appelle. Alors, on peut être là comme à l'école, du lundi au vendredi. On couche là, on est tout le groupe ensemble qui vivent les mêmes émotions. Alors, ça, c'est un service qui est très agréable. Alors, dans le meilleur des mondes et dans tout ce qu'on peut rêver pour aider les gens qui ont du cancer, ce serait d'avoir un bon service de radiothérapie ici en oncologie, ce serait fantastique. Et ça environnerait Saint-Hyacinthe, tous les gens ici, puis de l'autre côté, Berthier, Joliette, des gens vont à Trois-Rivières ou à Montréal. Alors, c'est quelque chose qu'on a besoin.
Oui. Juste parce que je ne veux pas l'oublier, voulez-vous, on va faire un 30 secondes là-dessus, Relais pour la vie. En fin de semaine, c'est au profit de la Société canadienne du cancer. Voulez-vous nous rappeler où on se rend, puis c'est de quelle heure à quelle heure, puis c'est très connu cette activité.
Elle rassemble
des centaines de personnes chaque
année. Alors, Relais pour la vie, c'est en fin de semaine, c'est le 1er juin, à Regard sur le fleuve. Alors, on invite la population de Sorel à venir nous voir, faire la marche de nuit, venir camper, autrement dit, avec un site extraordinaire et on a besoin de tous les gens que pour nous aider à aider les personnes qui sont déjà en phase de situations tragiques au niveau des cancers et d'apporter leurs dons. C'est tout ce qu'on a besoin, des dons. Puis je sais que la population ici, elle est très généreuse et à chaque année, il y a beaucoup de personnes qui assistent.
Merci, Jacqueline. On referme la parenthèse sur le relais pour la vie. Et là, je reprends sur le thème de la radiothérapie et de la question que je posais, là. Où s'arrête la dispensation raisonnable de services de proximité? Le panier de services, ça ne peut pas être illimité. Il y a des... ça coûte quelque chose. Il faut des spécialistes pour opérer tel et tel équipement. On arrête tout. Qu'est-ce qui est raisonnable d'avoir près de chez soi? Qu'est-ce qui l'est peut-être moins? Qu'est-ce qu'on doit accepter? Quels exils doit-on accepter?
Je ne pourrais pas vous dire quel exil on doit accepter. La seule chose, c'est effectivement la technologie, comme le disait Suzanne tantôt, évolue extrêmement rapidement. Et un équipement, à la Fondation, on a acheté des équipements et il a fallu, quelques années plus tard, refaire une campagne pour le même type d'équipement parce que ça devient désuet assez rapidement aujourd'hui avec l'évolution, je dirais, fulgurante de la technologie. Maintenant, de plus, puis je pense qu'on en a fait référence tantôt, un équipement, ça exige l'entretien, ça exige un opérateur.
Un local.
Donc, oui, local. Donc, la présence, par exemple, d'un spécialiste. Alors, ça devient, si la Fondation veut acheter un équipement, elle ne peut pas décider par elle-même de l'achat d'un équipement parce qu'il y a un tas de contingences autour.
Et de multiples consultations à faire.
À l'époque où j'étais directrice, c'était l'Agence de santé et de services sociaux, qui était à Longueuil, qui avait la liste des priorités pour l'Hôtel-Dieu de Sorel, des équipements, et bien là, la Fondation devait s'inscrire un petit peu dans cette priorisation-là. Parce que c'est pas seulement l'achat d'un équipement, c'est tout ce qui vient avec.
Bon. Il reste 5 minutes, ça passe terriblement vite. Comment ça va se finir, cette histoire-là? Est-ce que, comme moi, vous avez le sentiment d'être devant une crise de confiance extrêmement préoccupante? Il me semble qu'il y a une crise là, entre le maire de Sorel-Dracy, particulièrement, je parle beaucoup de lui parce que c'est vraiment lui qui a pris le devant de la parade, là, entre lui et Mme Potvin. Et la confiance ne paraît plus exister. Puis c'est tellement intense que je me demande si la crise peut se résoudre. Si elle peut se résoudre, comment peut-elle se résoudre, Jacques Bordelot?
Il n'y a pas de panacée à ça. On voit très bien que les réseaux de communication sont brouillés pour l'instant. Il y a un effort à faire de part et d'autre pour essayer de se rejoindre parce que c'est dans l'intérêt de la population. Et je comprends très bien le maire de Sorel qui se sent frustré. Il est, lui, tributaire de la perception que ses commettants ont de ce qu'ils vivent. Et par rapport à ce qu'ils ont vécu, certains d'entre eux, ou un bon nombre, peuvent se sentir moins bien servis. Ils le manifestent, et le premier receveur de cette manifestation-là, c'est évidemment le maire de la ville.
Comment vous expliquez que le député ne soit pas ennuyé par ces problèmes-là? Je parlais de la manif devant un bureau de Sylvain Simard. Albert, je suis sûr que vous en avez eu du monde à votre bureau pour critiquer les soins et les services.
J'ai quand même lu que le député entend défendre les intérêts de la région sur le plan de la santé à Québec et qu'il s'engage à le faire. Je ne crois pas. Moi, je crois sincèrement qu'il faut que les intervenants majeurs se reparlent sur un ton différent avec, à la clé, des solutions probantes. Ça veut dire des mesures concrètes qui pourraient être apportées au fonctionnement des sous-régions, du réseau de la santé dans les sous-régions. On parlait tantôt de planification stratégique. Il faut parler évidemment d'équipement. Il faut décentraliser. Il faut revenir à la décentralisation. Okay. On avait centralisé, mais il faudrait revenir à une forme de décentralisation qui fasse en sorte que les gens, la perception des gens ne soit pas une perception de gens lésés.
D'accord. Je vais très rapidement, parce que je veux donner la chance à tout le monde de s'exprimer. Il reste 3 minutes. Allez-y, Louise. Ensuite, Suzanne a aussi demandé la parole.
Pour moi, ce n'est pas une question de confiance. Quand tu abordes la situation, oui, comme confiance entre le maire et... Oui. Pour moi, ce n'est pas une question de confiance. C'est une question comment on organise, une question de vision. Comment on organise les soins dans notre région? Est-ce que c'est encore possible quand on peut pas voter, quand on n'a pas d'assemblée, est-ce que c'est encore possible de dire notre mot? Moi, en tout cas, M. le maire, je trouvais que c'était comme le sondage. C'était les gens qui disent, « Monsieur le maire, qui, d'après moi, c'est... En tout cas, il va falloir une rencontre beaucoup plus grande que ça. » C'est-à-dire, voici nos besoins à nous autres. Parce qu'on n'a plus d'endroit pour les dire, les
besoins.
Alors,
il se fait le
porte-voix. Tandis que Mme Potvin, c'est de dire, voici, je vous apporte des chiffres, vous avez plus de soins, puis tout ça. Tu sais, au bout de la ligne, tu dis, on chiale-tu pour rien?
D'accord, Louise. Suzanne?
Ben,
et ensuite, Albert?
J'aimerais beaucoup dire du bien de M. Péloquin, mais malheureusement, il ne me donne jamais la chance de le faire. Je le trouve, je ne sais pas trop si c'est pélo-centriste ou sorello-centriste, mais en fait, c'était une résolution. À l'origine, c'était une conférence de presse, une résolution de la MRC. Et M. Péloquin a pris toute la place et l'a fait avec des accusations, avec plutôt que... Et même à l'émission, Gilles Salva, puis il est revenu là-dessus, qui est le préfet. Moi, je viens de Massouville. C'est aussi mon hôpital, l'hôtel. C'est pas juste la population de Sorel-Tracy. C'est la population de l'ensemble de la MRC. Il faut en tenir compte. La résolution était de la MRC. C'est le préfet qui doit prendre le ballon. Et il l'a pris. Et il a demandé une rencontre avec Mme McCann. Puis je pense que c'est sur ce plan-là que les affaires vont avancer, plutôt que des accusations qui sont absolument invérifiables. Et qu'on soit d'accord ou pas, je pense que M. Péloquin a fait beaucoup de tort à la cause en agissant comme ça.
En fait, là, je pense que M. Péloquin et M. Salva dorénavant se passent le ballon. M. Kelfa, emparez-vous du ballon.
Mais j'aimerais souligner, c'est pas un débat Péloquin-Potvin. C'est un débat région pour notre survie, Comme je disais tantôt à Jacques, depuis que je connais la politique, on a eu plusieurs réformes. On a eu la réforme Thérèse Lavoireau, celle de Côté, celle de Dr.
Rochon avec moi.
Dr. Hébert, Lucienne Robillard. On a vécu toutes des modifications. Aujourd'hui, les politiciens en place, le député et son gouvernement, ils ne veulent pas ouvrir le dossier, ils ne veulent pas faire une nouvelle politique. Peut-être c'est bon, peut-être c'est pas bon, mais le plus important, je crois que notre député, il a à cœur, comme tous les députés qui ont passé ici, il a à cœur le besoin de sa population, et j'espère que le travail va se faire d'une façon acharnée dans les cabinets du ministre et du premier ministre. De plus, ce que je reproche au conseil d'administration de la Montérégie, le CIS,
le CI3S Montérégie,
qui a personne qui représente notre propre région et nos propres besoins. Tant et aussi longtemps, on ne réussit pas à faire tourner cette situation à notre faveur, on va vivre toujours, à chaque fois qu'on veut améliorer la situation, on va vivre la même situation. On l'a vécu avec le scanner, on l'a vécu avec
le bronchoscope.
Et là, on le vit avec IRM aujourd'hui. Et demain, on va vivre avec quoi? Mais, on veut éviter demain.
Messieurs, mesdames, on va confirmer l'importance là, d'une direction locale sur place. Le directeur des ressources humaines de la station est parmi nous, puis il me dit « défonce le 13h, et on va continuer un peu, c'est intéressant, il ne faudrait pas que ça finisse en queue de poisson, cette histoire-là ». Là, j'entends et réentends l'importance que nous soyons à nouveau représentés par des administrateurs que nous avons élus, nommés, auxquels nous avons confiance. J'entends et réentends qu'il faut recouvrer un conseil d'administration. Est-ce que j'entends bien? Est-ce que c'est ça, vous croyez? Tantôt, Jacques Bordeaux, j'allais vous tutoyer, vous avez parlé de nœud gordien, l'administration locale que nous avons perdue. Il faut la recouvrer?
Il faut recouvrer.
trouverez une forme quelconque de meilleure gouvernance locale avec des ressources qui nous soient imparties et que dont on puisse disposer vraiment en fonction des besoins circonscrits. Et là-dessus, je veux simplement manifester que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Madame qui est intervenue tantôt. Madame Potvin est une administratrice. Elle fait son travail d'administratrice. Elle apporte des, et je l'ai été longtemps, elle apporte des arguments d'administratrice avec des faits d'administratrice. Alors que le maire de Sorel, lui, entend des inquiétudes, des préoccupations, plaintes.
Qui lui relaient.
Et qu'il relaie tout à fait de la façon dont il doit le faire ou
dans
dont
son
il
style.
Peut le faire, dans son style. Ouais. Et chaque maire a son style, on le sait très bien. Alors, c'est tout à fait normal de ce dialogue un peu en fer à cheval pourrait sortir quelque chose de beaucoup mieux, mais il va devoir y avoir des changements qui rapprochent pour la population, les centres de décision auprès de notre sous-région.
Bon, là, il y a un enjeu, Jacques Bordelot. Albert Kelfand va être intéressé par ça, les autres aussi. S'il devait y avoir à nouveau un conseil d'administration à la tête de notre propre réseau local de santé, le réseau local de santé de Pierre de Sorel, aussitôt, il y aurait semblable demande dans les autres sous-régions, partout sur le territoire québécois. Alors là, croyez-vous vraiment réaliste votre souhait? Et on est vraiment plus devant des décisions administratives, mais on est devant des décisions politiques que vous souhaitez que le gouvernement actuel prenne, là.
Vous avez mis votre doigt sur le problème. Quand on a réussi dans les années 80 de faire une sous-région avec un budget spécifique, les autres sous-régions ayant demandé la même parité. Sauf que c'était un peu difficile. On était à 10% supérieur au niveau, si on fait le rapport entre nombre de population et le budget accordé et alloué, on était à 10% supérieur aux autres sous-régions. Et c'est ça ce qui est arrivé à un moment donné. Vous avez eu une manifestation avec M. Simard.
Je n'étais pas avec lui, mais je la couvrais pour CJSO à l'époque.
Oui. Et une bonne manifestation pour maintenir ces 10%. Vous avez mis le doigt sur le vrai problème si on a une affaire supérieure aux autres. Sauf qu'il faut l'expliquer, si on reçoit quelque chose de supérieur, c'est à cause de notre besoin est supérieur et notre réalité géographique est différente. Peut-être la réforme Barrette est excellente pour Montréal, peut-être, je ne le sais pas. Peut-être est excellente pour la région centrale de la Montérégie.
De Longueuil, par exemple.
De Longueuil. Mm-hmm. Il y a plusieurs centres, peut-être. Mais pour nous ici, c'est une catastrophe.
Et c'est bien difficile de comprendre que ce soit une catastrophe quand on ne la vit pas de près soi-même. Hein? C'est pas de... Quelqu'un a dit tantôt, il n'y a pas de mauvaise foi du côté de Mme Potvin. C'est juste qu'elle n'est pas sur le terrain. Ce n'est pas... c'est pas un défaut de ne pas être une citoyenne d'ici, mais c'est très difficile de comprendre de loin les enjeux. Mme Lalande.
Je voudrais juste un petit point que les autres maires aussi entendent et relaient les choses. Il y a des façons de le faire, mais on y reviendra. C'est un problème de MRC, ce n'est pas un problème juste de Sorel-Tracy. Mais ce que je voulais faire un lien, moi, plutôt avec ce que tu parlais des services de proximité, de l'importance, où est-ce que ça doit se limiter. Et je pense que c'est ça l'enjeu, entre autres. Je n'ai pas entendu personne dire qu'est-ce qu'on veut que l'hôpital de Sorel-Tracy devienne éventuellement. Est-ce qu'on veut que ça soit un hôpital de base généraliste? Est-ce qu'on veut qu'il y ait des spécialités? Est-ce qu'on faudrait, puis je fais le lien avec un CA local, faudrait que les personnes, une espèce de direction locale où il y a des représentants de la population, soient capables de dire c'est quoi les besoins, qu'est-ce qu'on devrait avoir, et que ça soit ça qu'on puisse aller négocier. Là, on n'a pas entendu ni Mme Potvin, ni la ministre McCann encore, en tout cas, dire qu'est-ce qu'on veut faire de l'hôpital de Sorel-Tracy. On a des rumeurs, mais c'est là que la population devrait intervenir. Voilà, c'est ça dont on a besoin. Parce qu'il y a des spécialités qui devront, on dit le coût des équipements, qui devront être exportées ailleurs. On ne pourra pas tout avoir ici, c'est sûr. Il y a des choses que les gens de Saint-Hyacinthe vont devoir venir ici peut-être ou qu'on va aller. Mais en fait, il faut qu'on s'entende sur qu'est-ce qu'on veut pour pouvoir aller le demander.
Oui. Jacques Bordelot?
Moi, si on me demandait quel hôpital je souhaite avoir, je dirais celui que nous avions. D'abord et avant tout, celui que nous avions qui permettait... On m'entend mal?
Non, on vous entend très bien, mais non, c'est parce que je me demande, parce que vous conjuguez votre verbe là à l'imparfait, que nous avions. On ne l'a plus, cet hôpital?
Celui que nous avions à l'époque où nous avions un C3S et non pas un CI3S. L'hôpital qu'on avait réussi à améliorer avant la réforme, et cet hôpital répondait à hauteur de 82% aux besoins de la population pour obtenir sur place des services et des soins de santé. Et évidemment, j'ai le goût de dire, est-ce qu'il y a beaucoup de gens de Saint-Hyacinthe ou de Longueuil qui viennent à Sorel actuellement? Il ne doit pas y en avoir beaucoup, hein? Alors, s'il y avait une véritable parité dans le flux des ressources et des importances réciproques qu'on accorde, il y aurait des circulations comme celle-là. Mais c'est pas ce qui est souhaité non plus. Ce qui est souhaité, c'est qu'il y ait des moindres circulations, que les gens trouvent chez eux les services et les soins dont ils ont besoin pour ne pas avoir à se déplacer, particulièrement dans une région comme la nôtre, où le taux de vieillissement est plus élevé que dans la Montérégie, que dans l'ensemble du Québec.
Bien.
Et où les services de transport en commun ne sont pas très développés.
D'accord.
Alors, ce sont autant de facteurs dont il faudrait tenir compte pour allouer des ressources et des intervenants qui puissent satisfaire les besoins qui sont les nôtres ici.
Louise Beauchesne. Louise Beauchesne.
Oui, c'est ça. Moi, je pense pas juste à l'hôpital. Dans le sens que c'est une mission, là, la mission d'avoir des outils de travail puis d'avoir au niveau médical. Mais je pense que d'avoir une vision ici, là, ça comprend le CLSC. Moi, je me dis, ça comprend tous ces centres-là qui, d'un à l'autre, s'aident à avoir de meilleurs services et à rendre des bons soins dans la région. Je pense aux soins à domicile. Il y a quelque chose avec le vieillissement de la population. Je pense qu'il y a des infirmières diplômées qui pourraient faire pas mal plus, mais on les envoie en clinique privée. Ça n'a pas de bon sens. C'est au CLSC qui devrait être. Je pense qu'on devrait avoir un comité qui rêve de soins dans la région, qui pourrait s'appeler dans le réseau de villes et villages en santé. Ça veut dire pas juste des médecins, pas juste... Ben, des médecins, des maires, tu sais, ça existe, le réseau Ville et Villages en santé, puis les gens rêvent pour leur région, comme on rêve pour notre région.
Dernière question avec laquelle nous allons fermer cette émission dans deux minutes, là, mais vous pourrez peut-être vous accrocher à cette question. Hélène Goulet, vous aviez demandé la parole. Monsieur Péloquin souhaite que pas juste lui, là, la MRC souhaite que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est adopte la résolution soumise par le Dr Godin à Mme Potvin mardi à la Tribune, une résolution qui, en substance, affirme que les services de médecine spécialisée tels qu'ils existent actuellement à l'Hôtel-Dieu de Sorel seront maintenus de façon permanente, sur place, en continuité, 24 heures par jour, 7 jours sur 7, 365 jours par année, et que le développement des médecines de spécialité se fera en fonction des besoins locaux. Madame Potvin a répondu à M. Godin, « Pas besoin de résolution du CA, vous avez ma parole. Est-ce que le Centre intégré de santé et de services sociaux l'adoptera, selon vous, cette résolution? » Réponse à la demande de réaction. J'ai téléphoné au bureau du CI3S et j'ai demandé une réaction de la PDG à cette résolution. Réponse, c'est la prérogative du conseil d'administration. Madame Potvin ne réagira pas à ce nouveau développement. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce que le CI3S va l'adopter? Puis est-ce que c'est important que le CI3S adopte cette résolution-là? Hélène? Puis gênez-vous pas pour dire ce que vous vouliez dire là, avant que je pose cette question-là.
Je ne sais pas si c'était pas... Mais moi, je crois que oui, parce que la réforme, c'est ça aussi, la réforme Barrette, c'est eux qui ont le pouvoir. Et je veux faire un petit peu de millage sur les propos de Suzanne, elle a raison, mais il faut qu'il y ait des gens d'ici qui expriment les besoins. C'est pas Mme Potvin qui, justement, avec sa vision plus administrative, qui est certainement une excellente administratrice, mais elle n'est pas l'aspect humain, là, je dirais, des soins ici et des besoins des gens, et pour justement apaiser l'insécurité. Donc, ça prend des gens d'ici, représentants de tout secteur, pour exprimer, que ce soit à la ministre McCann ou à Mme Potvin ou même au conseil d'administration du CI3S, il faut que ça parte d'en bas, des gens d'ici, de la problématique d'ici. Sinon, eux ne régleront peut-être pas les besoins que nous exprimons s'ils ne savent pas c'est
parfait.
Quoi.
Parfait. Une minute encore. Est-ce que ce serait un mauvais signal si elle n'était pas adoptée, cette résolution, et est-ce que ce serait un bon signal si elle l'était? Albert.
Rapidement, pour ce que Suzanne mentionnait...
Ils ne veulent pas répondre à ma question.
Ce que je rêve pour la région, c'est un centre hospitalier universitaire. Mais je rêve en couleur. Mais si on rêve en noir, on rêve à rien.
Êtes-vous en train de nous annoncer que vous allez prendre la tête là, d'un groupe de citoyens en faveur de l'instauration?
Si j'avais la force, je le ferais. Mais à votre résolution, c'est une résolution et ils peuvent le voter. Mais théoriquement, ça ne pourra pas être applicable si on ne rajoute pas que les équipements qui viennent pour supporter les spécialistes et les spécialités ne soient pas accordés. C'est que si jamais ça ne marche pas, s'il n'y a pas des équipements nécessaires, les spécialistes ne resteront pas. La résolution, elle peut être adoptée tout de suite. C'est pour ça que Mme Potvin, elle l'avait dit, je vous l'accorde tout de suite.
Elle disait pas besoin de résolution, vous avez ma parole. Alors, Jacques Bordereau, je pense que vous allez avoir la parole, vous, de la fin. Est-ce que le CIS de la Montérégie-Est doit adopter cette résolution-là? Est-ce qu'il va le faire? Est-ce que c'est un bon signal s'il le fait? Est-ce que c'est un mauvais signal s'il ne le fait pas?
Je crois qu'il devrait le faire parce qu'on doit tendre vers des idéaux et vers des meilleures performances. Alors, il manifesterait ainsi sa volonté d'aller plus loin et d'aller mieux servir les gens dans leur milieu. Maintenant, est-ce qu'il pourra le réaliser intégralement? Il faut au moins le vouloir pour pouvoir le faire.
Bien. Alors, Louise Beauchesne, Jacques Bordeleau, Jacqueline Cournoyer, on n'oublie pas là, le relais pour la vie en fin de semaine, Hélène Goulet, Albert Kelfa, Suzanne Lalande, merci, compliments pour votre participation à cette émission. La semaine prochaine, la Tribune s'intéressera au festival auquel notre région nous donne rendez-vous. Bonne semaine, à mardi prochain.